Alléluia. Ah, est-ce que le Seigneur mérite des louanges, l'adoration? À lui la gloire pour l'éternité. Amen. On est ici pour le glorifier. Dans une des paroles des chants, ça disait que tous les anges du ciel l'adorent, mais aussi, présentement, il y a des chrétiens, des gens qui le connaissent, qui marchent avec lui, qui l'adorent. On est ici pour glorifier sa majesté, le prince de la vie, le Seigneur qui s'est révélé à chacun de nous, qui nous a appelés à marcher à sa suite, puis il nous appelle à rentrer dans son royaume éternel. Y a-t-il quelque chose de plus beau que ça? Il n'y a rien de plus beau que ça sur cette terre. Des fois, il y a bien des plaisirs passagers qui sont bien excitants, mais c'est rien qu'au moment excessivement excitant et éternel qu'on va vivre dans sa présence. On va être dans une joie qu'on peut même pas calculer. Jésus, à un moment donné, il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est une explosion de joie produite par le Saint-Esprit dans un corps humain, là. Il devait... Mais imaginez quand on aura plus ce cas-là qui nous empêche, on est gêné, on va être dans une explosion de joie éternelle. En plus de goûter sa paix, son amour, puis tout le kit, ça va être super. Merci Seigneur. Ça, c'est des paroles pour nous encourager à persévérer, à garder le cap. C'est peut-être souffrant par bout sur cette terre. C'est peut-être plate aussi dans les temps isolés qu'on a présentement. Mais on a toujours l'idée qu'un jour, Jésus va revenir nous chercher, puis ça va être fini. Le temps de passage sur cette terre, ça va être fini. Ça va être le temps des récompenses, des bénédictions. Amen. Jésus a souffert avant de rentrer dans la gloire. Puis il faut s'armer de cette pensée-là. On a commencé une étude la semaine passée sur le royaume de Dieu. On a vu que ce royaume-là, qui est théocratique, c'est un gros mot bien compliqué, qu'il y a du monde qui a de la misère à s'en rappeler, tellement que c'est compliqué, parce que théocratique, ça veut dire théo, c'est Dieu, puis kratos, c'est la puissance, la force. C'est un règne que Dieu exerce. Une théocratie, quand on parle, c'est Dieu qui est le chef suprême de son royaume. Puis on a vu des versets que pour lui, Dieu, il règne sur toute la terre. On l'a même chanté un matin dans certains bouts des paroles du chant, qu'il règne sur cette terre. Même si on pense que c'est le diable qui mène, c'est pas le diable qui mène. C'est Dieu qui mène les choses, puis il sert du diable. Il laisse aller le diable, il savait déjà tout ce que le diable était pour faire, puis il y a des choses qu'il peut pas faire, puis il y a des choses qu'il est autorisé à faire, mais c'est Dieu qui règne dans le royaume de Dieu. C'est un royaume qui règne sur toute la terre. Pourquoi? Parce que tout lui appartient. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Tout est à lui. Tout souffle de vie, que ce soit humain ou animal, c'est à Dieu. Comme qu'il a décidé à un moment donné de tout effacer dans le déluge, il a détruit toute la planète sauf une famille. Il avait le droit de le faire, puis encore le droit de le faire, parce qu'il est le propriétaire de tout. Il peut faire ce qu'il veut, quand qu'il veut. Mais il a déjà tout annoncé, ce qui était son programme. Les choses vont s'accomplir. Aujourd'hui, on continue l'idée de ce royaume-là. Le sujet, c'est le royaume de Dieu. Je vais vous parler de ça pendant une couple de semaines. Là, on va voir que dans l'autorité de ce Dieu-là, ce Dieu qui est en autorité, on va voir qu'il a remis son autorité à une autre personne. On va parler de l'établissement du règne de Yeshua, le Fils de Dieu. Que Jésus a été établi l'héritier. Il est le prince héritier de toutes choses. Puis le poste d'autorité est à lui autant qu'il était à son père. Dans toute l'immensité de ce que ça peut, les idées qui peuvent nous découler dans ce sujet-là. On a démontré que Dieu est l'autorité suprême de son royaume, mais Dieu il avait l'intention de nous présenter son Fils comme roi dans le royaume de Dieu. C'est un mystère quand même, c'était caché, c'était pas révélé dans l'ancien temps. Ça s'était révélé à quelques reprises par des prophètes dans l'ancienne alliance, mais les gens savaient pas c'était quoi l'enjeu de ces versets-là. jusqu'à temps que le Messie vienne puis qu'il est appelé le Fils de Dieu. Puis c'est là que les prophètes, les apôtres ont compris c'est quoi qui se passait, puis ils nous ont parlé dans le Nouveau Testament de ce qui est arrivé avec Jésus par la suite, le Fils unique venu du Père. On va voir quelques prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient le règne du Fils de Dieu. Mais c'est des choses, comme je vous dis, c'était pas évident. Il n'y avait pas beaucoup de versets. Je vais vous en sortir 4 de l'Ancien Testament. 3-4. Dieu nous avait prédit la venue d'un Fils appelé Dieu puissant, puis Père éternel, qui recevrait l'autorité du royaume de son Père. On voit ça dans Isaïe, chapitre 9. Dans certaines Bibles, c'est le verset 5, d'autres, c'est le verset 6. Ça nous dit, regardez bien ça, c'est précis quand on a vu de notre position aujourd'hui. Oui, je le sais. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est ça qui est le point. Un cadeau de Dieu qui nous a donné un fils, mais qui était pour le donner. À cette période-là, il était pas, c'était pas encore fait. Mais il savait qu'il y avait un fils qui nous serait donné. Puis la domination, ça c'est l'autorité, le pouvoir, le contrôle, surtout, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est de même qu'on va l'appeler ce fils-là, mais on l'appelle comme ça dans nos chants, dans nos prières, parce qu'on l'a reconnu, c'est le Messie qui est venu il y a 2000 ans, c'est le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. On continue l'autre verset. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Là, on parle du royaume de Dieu, pas le seul selon la chair. Oui, il va régner sur le royaume de la chair à Jérusalem, mais il parle d'un royaume, ici c'est le royaume de Dieu. Il va donner la paix, il va faire l'accroissement, parce que c'est grâce à son œuvre qui est venu nous enseigner la vérité pour nous ouvrir les yeux, puis il a payé le prix pour qu'on puisse être pardonné et pouvoir naître de nouveau, entrer dans le royaume. Sans cela, là, aucune personne n'aurait pu y rentrer. Il fallait que Jésus accomplisse sa tâche, c'est grâce à lui, à son œuvre, c'est un Messie-là qui a donné de l'accroissement à l'Empire, puis une paix sans fin dans le royaume de Dieu. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice, ce royaume-là est bâti sur les paroles de Jésus qui nous parle de justice et de droiture, puis c'est pour dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Nous, on peut dire, voilà ce que a fait le zèle de l'Éternel. Ça fait 2000 ans que cette parole-là est accomplie, mais ça avait été annoncé 500 ans avant que Jésus vienne, qu'il y ait un Messie qui viendrait, un Sauveur, qui viendrait pour nous pardonner, puis prendre sur lui les péchés de l'humanité, expier nos péchés, puis qui nous prouve qu'il y a une résurrection en mourant puis en ressuscitant. Pour bâtir, solidifier, on n'est pas en train de croire à des choses fictives, un livre de fiction ou un livre d'un roman. C'est une histoire vraie, annoncée d'avance, vue par des témoins, écrite par ces témoins-là, puis on a ces écrits-là 2000 ans plus tard. Ça, c'est à part de toutes les autres preuves qu'on a eues dans notre vie par des confirmations que le Seigneur a faites, par des exaucements de prières ou quoi que ce soit, pour montrer qu'il est là. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur. Alléluia. Une autre prophétie annonce l'élévation par l'Éternel de quelqu'un appelé Seigneur. Là, pour que Dieu appelle quelqu'un Seigneur, c'était pas n'importe qui ce personnage-là qui était annoncé dans cette prophétie-là. Puis en plus que ce personnage-là qui sera appelé Seigneur par le Seigneur, mais qui en plus il dit qu'il va s'asseoir à la droite du Père dans les cieux. Alors regardez le psaume 110, les versets 1 et 2. C'est là qu'on peut reconnaître que David, il était prophète. Il voyait les choses de Dieu. Il est inspiré par le Saint-Esprit, il a écrit des paroles qui se sont accomplies, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Ça dit, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur. » Ça, c'est l'Éternel qui dit que sa parole à mon Seigneur. Il est en train de parler au Seigneur, à un Seigneur. Il dit à ce Seigneur-là, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ce personnage-là, il est élevé à être assis à la droite de Dieu, puis Dieu, qui il appelle ce personnage-là Seigneur, puis il dit, tu as des ennemis, là, mais je vais m'en faire qu'ils deviennent tous ton marchepied. Jésus, il a été élevé, puis maintenant, il a le pouvoir sur toute chose, puis il marche sur ses ennemis, puis ils peuvent rien faire, puis un jour, tous vont flécher le genou, puis ils vont rendre gloire à Dieu. C'est Dieu le Père qui a élevé son Fils à venir s'asseoir, puis il l'appelle Seigneur, puis il va lui donner, il a donné déjà toute l'autorité sur tout. Ça dit au verset 2, « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. » Puis là, il dit, « Domine au milieu de tes ennemis. » Fait que Jésus, c'est le grand roi. Oui, on parle de Jésus qui est à l'agneau de Dieu. Oui, il est venu comme un agneau. Il n'a pas résisté à ceux qui l'ont tué. Il n'a pas résisté aux gens. Ça dit, il ne contestera pas dans les rues, puis il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Mais il est venu pour annoncer la justice. Il est venu comme un agneau, mais qu'il revienne, il ne sera pas un agneau. Il va revenir comme un lion rugissant qui va établir son règne, son autorité, son pouvoir, puis il va anéantir tous ceux qui s'opposent contre lui. Il va dominer sur ses ennemis en tant que grand roi, le roi de toute la création. Hey, c'est fort ces paroles-là, c'est annoncé le... Mille ans avant que Jésus vienne, puis ça parle là de comment est-ce que le Messie sera élevé à la droite de son Père, assis à sa droite. Puis ça a été confirmé par qui? Ça a été confirmé par Étienne dans les Actes des Apôtres. Quand il était en train de se faire lapider par les gens, il était en train de parler de Jésus. Puis là, les Juifs sont venus enragés, ils ont pris des roches pour le lancer des roches jusqu'à temps qu'il meure. Puis pendant qu'il était en train de se faire savoir des roches, il dit, voici, je vis le ciel ouvert. Puis il a vu Jésus assis à la droite de Dieu. Il avait vu Jésus partir, monter, à un moment donné, 40 jours après sa résurrection à Jésus. Il a vu Jésus partir avec les autres apôtres, qui est monté dans les cieux. Mais après ça, quand il s'est fait persécuter, il a vu Jésus assis à la droite de Dieu. C'est une confirmation de ce passage-là que le Dieu le Père était pour appeler quelqu'un Seigneur puis lui offrir de s'asseoir à sa droite. C'est quelque chose, ces prophéties-là, qui annonçaient la venue, non seulement la venue du Messie, mais qui annoncerait son couronnement. Parce que c'est pas tout le monde qui sont assis dans l'autorité de Dieu le Père. Comme j'ai dit tantôt, Dieu le Père a toute autorité sur toute la création. Puis même la création du monde invisible, tous les anges de Dieu adorent Dieu. Mais Jésus a été élevé pour être assis à la droite de Dieu le Père. Wow! Daniel aussi, il a eu une vision, le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Il a vu le couronnement du Fils de Dieu pour un règne éternel. On voit ça dans Daniel chapitre 7, les versets 13 et 14. Il dit, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. C'était pas connu, ça, que Dieu est en trois personnes, puis que nous, on voit ça aujourd'hui, quand il y a Dieu le Père, le Fils, puis le Saint-Esprit qui sont un seul Dieu. Ça, on peut l'imaginer parce qu'on est révélation. Le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu, puis le Dieu le Père est Dieu. Puis qu'ils sont un seul Dieu. Puis dans l'Ancien Testament, quand que Dieu, c'est comme si tu vois dans des passages, Dieu est en train de se parler. Puis il se parle à la troisième personne en disant, faisons l'homme à notre image. Bien, il y a plus qu'un passage comme cela qui démontre qu'il y avait plus qu'un être à l'intérieur de Dieu, mais il n'en savait pas plus que cela. Là, il fallait que Dieu révèle qu'il était pour envoyer quelqu'un qui sort de Dieu, issu de Dieu, descendu de Dieu. Là, on va voir qu'est-ce qui va y arriver, ce personnage-là. Il a regardé, il a vu quelqu'un sur les nuées, des cieux qui arriva. Quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. C'est là qu'on voit que ce personnage grandiose, je n'ai pas vu souvent du monde arriver ces nuages comme ça, sans avion ni hélicoptère. Mais celui-là, mais qui arrive, là, il va être vu par tous, parce que c'est annoncé prophétiquement, ça, qu'il reviendrait, comme qui est parti. Les anges l'ont annoncé. Puis là, lui a la vision du retour de Jésus. Mais on voit d'autres choses dans ce passage-là. Au verset 14, « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes et de toute langue le servirent. » Wow! Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Wow! Là, je vous le dis, frères et sœurs, on est béni, appelez ça comme vous voulez, là, grandement béni de pouvoir comprendre ces choses-là. C'est les paroles de Dieu qui nous a annoncé des mystères inconnus de tous les siècles. Puis nous, il nous révèle ça de même, là. On comprend que Jésus va revenir, puis il va régner sur toute la terre. Tous les royaumes vont être à genoux devant lui. Ça va être extraordinaire de voir ça, parce qu'on va y être. On va le voir. Parce que mec, il revient aussi pour nous chercher. Amen. Gloire à Dieu. Puis sa domination, c'est une domination éternelle. Même si le ciel et la terre vont disparaître, on a vu la semaine passée, que même quand tout va disparaître, Dieu va rester roi de toute la création. Puis il va en créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, puis il va être encore le roi. Mais Jésus a été placé assis à la droite de Dieu, puis il va régner lui aussi sur cette terre et dans le royaume éternel. Sa domination ne passera jamais, elle sera jamais détruite. Sa domination, c'est le contrôle, le pouvoir, l'autorité qui va exercer sur tout ce qui existe. Jésus, le Fils, il n'était pas connu, mais nous autres, on l'a vu qui est venu il y a 2000 ans, là, on l'a vu, c'est une façon de parler. On l'a vu dans l'histoire qu'on a lue, qui est venu au monde, puis qui a été retourné rejoindre son Père dans l'autorité qu'il avait avant de venir ici. Parce que dans un autre verset, je ne l'ai pas dit, ce verset-là, ni je ne le dirai pas aujourd'hui, mais je vais vous le dire là, il dit, dans sa prière, dans Jean 17, il dit, « Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jésus est assis là en Dieu, parce qu'il dit, il est issu de Dieu, il est sorti de Dieu. Fait que là, il est retourné en Dieu, on va le voir dans un des prochains versets. Jésus, il existait en forme de Dieu, puis il a retrouvé après sa mort la pleine présence de Dieu. Il est Dieu. Sauf qu'il a voulu, Dieu, nous présenter quelqu'un qui était comme partie de lui, qui est venu comme fils de l'homme. Il a donné un corps, il a donné une image d'un homme terrestre pour que ce soit quelqu'un qui a l'image d'un homme terrestre qui règne sur toute la terre. Il a voulu donner une image à sa présence. Il est là, il est l'image du Dieu invisible. Il est l'empreinte de sa personne. Si tu vois Jésus, tu as vu le Père. C'est ça qu'il nous dit dans d'autres passages. Fait qu'il a voulu donner une image de lui. Mais il veut pas qu'on se fasse des dessins de cette image-là, parce qu'on peut pas, c'est pas l'image qu'il faut adorer, c'est Jésus en esprit qui est partout en même temps, voyez-vous. Un autre verset qui nous prophétise quelque chose sur Jésus avant que ça l'arrive, c'est l'ange qui a parlé à Marie. Il lui a annoncé que son fils sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est Élion, qui est le Très-Haut, qui est au-dessus de tout. Jésus est le Fils de celui qui est au-dessus de tout, le Fils du Dieu Très-Haut, ça dit la traduction en français. Puis ça dit aussi, « Et le Seigneur Dieu, le Père, lui donnera le trône de David, son père. » Ça, c'est l'ange qui est en train de dire ça à Marie quand elle avait le bébé dans les mains. Puis ça dit, de ce bébé-là, il règne, mais il sera pas tout le temps bébé, là, bien évident, il a grandi. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Ça veut dire qu'il y a eu bien plus qu'un témoignage pour annoncer qu'il serait roi. ce fils-là, celui qui est né de Dieu. Il faut bien comprendre qu'il vient de Dieu. Joseph n'a rien servi pour mettre Jésus au monde. Marie était comme le vase qui a porté le Dieu Tout-Puissant qui est en forme humaine. C'est Dieu que le Saint-Esprit est venu, la puissance du Très-Haut a touché Marie, puis paf, elle tombe enceinte. Et le bébé il est né de la puissance de Dieu, sans l'intervention d'un humain. Puis il a quand même grandi dans son ventre de 9 mois quand même. Elle l'a porté, l'enfant. Elle a été choisie pour porter l'enfant que Dieu a mis là. Il est pas le, oui, il est dans un sens fils adoptif de Joseph, mais il est le fils de Dieu. Puis le fils unique de Dieu. Les autres qui sont appelés fils de Dieu le sont par adoption, tandis que lui a été créé par Dieu. Fait que, il est le fils, il est l'héritier, puis c'était écrit qu'il deviendra l'autorité suprême assis à côté de Dieu son Père. Si vous pensez à Jésus, pensez-les pas comme un simple homme, comme un bébé dans la crèche ou un homme sur la croix. Jésus, il est l'air qui remplit toute chose. Il a retrouvé l'être, la présence de celui qui remplit tout et en tous. Il est partout. Il est omniprésent. Il est dans la présence. Il est Dieu, comme Dieu son Père. Si je parle ici, là, je peux parler à Dieu le Père, je peux parler à Jésus, je peux parler au Saint-Esprit. Les trois sont là. Peu importe ce qu'on va, ça va, s'il peut moins chez nous, puis un autre est chez eux, on parle à ce Dieu-là qui est en trois êtres distincts. Puis qui nous entend, puis il nous aime, puis qui veut nous conduire dans sa vie éternelle. Jésus est descendu du ciel comme un simple homme. C'est sûr que pendant un temps, puis je comprends un peu les religions qui ont de la misère à faire trier ça, cette idée-là, là, que Jésus parlait à son Père, donc il ne pouvait pas être Dieu. Oui, mais il faut comprendre qu'il était là avant. Il a quitté cela, sa forme de Dieu, pour venir comme un simple homme. Pendant un certain temps, il était abaissé en dessous des anges, à la hauteur d'un homme comme nous, un simple homme. Il n'a même pas cherché à être le plus grand de la gang, puis le meilleur, puis le plus intelligent, puis le plus instruit. C'est pas lui, il voulait juste être lui, puis vivre sa petite vie, puis faire ce qu'il avait à faire. En tant qu'homme limité comme nous, mais il était rempli de la présence de l'Esprit de Dieu. Il était revêtu de la puissance. Il était baptisé du Saint-Esprit, c'est ce que ça dit dans Luc, parce que Luc, au chapitre 4, c'est Jésus rempli de l'Esprit, il était dans le désert pour être tenté par le diable. Quand il est sorti de là, ça dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Là, il a commencé à faire ses miracles. Il a rentré rempli dans le temps de tentation de 40 jours, puis il en est sorti revêtu de la puissance. Puis là, il a commencé son ministère, puis les miracles ont commencé. Il marchait baptisé du Saint-Esprit comme nous. Plus que nous, mais comme nous aussi, c'est accessible. Comme tout être humain pourrait être rempli du Saint-Esprit, mais à Jésus, il n'y avait pas l'Esprit comme par mesure. C'était pas une portion. Il y avait tout ce qu'il y avait. Il y avait tout ce que Dieu pouvait mettre dans quelqu'un, il l'avait. Mais il n'y avait pas tout. Parce que c'est quand il est mort qu'il a réobtenu tout ce qu'il y avait avant, auparavant. Alors, regardez bien ce passage-là, qu'on voit qu'il a été humilié. Ensuite d'être un simple homme, il a été humilié. Ensuite, il a été élevé au-dessus de tous les êtres qui ont existé et qui existera. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Paul y écrit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, voyez-vous, là, il dit clairement que Jésus existait en forme de Dieu. Jésus était Dieu avant de venir ici. Il dit, lequel, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, puis il a paru comme un simple homme. Son but, c'était pas de « je vais m'élever, je vais me faire un trône plus haut que Dieu », puis pareil comme le diable ou comme le Nébuchadnezzar ou ces grands rois-là qui essayent de toujours de se faire un trône plus haut que Dieu. Lui, Jésus, il a regardé comme si c'était une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'en foutait, mais il savait que c'était pas sa mission. Lui, c'était un gars humble, c'était un gars ordinaire. Il vous aurait parlé bien comme si rien n'était, là, tu sais. C'était pas un gars qui se pensait supérieur puis qui rabaisait les autres, puis qui voulait s'élever en piétinant ses autres, puis en faisant du mal, parce que souvent du monde s'élève en écrasant les autres, en dévorant les autres, en faisant fermer les commerces de l'autre pour que le sien prenne de l'ampleur, puis toutes des manigances méchantes. Jésus, lui, il cherche à rien d'être plus que les autres. Il s'est humilié. Il fallait qu'il vienne comme un simple homme. Ça dit qu'il existait en forme de Dieu, là. Il était la forme de Dieu. Il était Dieu. Puis il a accepté son rôle d'humilité. Il dit, je suis doux et humble de cœur, que Jésus dit. C'est un gars, il a voulu paraître comme celui que tu peux approcher. Celui qui ne sera pas gêné d'aller parler avec. Tu le sens pas qu'il te regarde de haut, là, tu sais. Jésus, il dit comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Il a obéi à tout ce que Dieu, son Père, lui demandait. Autant d'obéir à la loi, il le met en pratique sans l'enfreindre. Puis en plus de ça, même les prophéties qui étaient annoncées sur lui, étaient annoncées pour lui. Il s'est arrangé pour qu'ils s'accomplissent toutes les prophéties. J'en ai parlé un peu l'autre jour quand il était à sa croix, là, puis il a dit « j'ai soif ». C'était afin que les Écritures soient accomplies, qu'il a dit « j'ai soif ». Là, ils ont donné à boire du vinaigre, puis là, c'était écrit qu'il fallait qu'il donne du vinaigre. Mais il voulait que les prophéties s'accomplissent, qu'il a toujours vécu de façon à ce que les prophéties s'accomplissent, qu'il soit l'exemple en toutes choses. Il a suivi le chemin de l'obéissance à 100% jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix, ça veut dire qu'il n'y a pas de mort plus honteuse, plus difficile à passer. Quand tu meurs dans ton sommeil la nuit, tu n'as rien, tu n'as même pas pensé, tu n'as même pas eu peur de mourir, tu te relèves le matin, tu es mort. Mais tu te relèves pas vraiment, mais tu te réveilles pas, tu te réveilles l'autre bord. Mais c'est facile de mourir de même. Mais savoir que tu vas être torturé, ridiculisé, humilié, battu. Ça, là, il savait, lui, qu'il fallait qu'il aille jusqu'à la mort. Il savait qu'il était pour mourir, d'en mourir. Puis il l'a annoncé à ses disciples. Puis il a accepté son chemin jusqu'au bout. C'était le chemin de Dieu. Ça nous parle aussi d'ayer les sentiments qui étaient en Jésus. Ça veut dire, il faudrait, nous aussi, être des gens qui cherchent à s'humilier, puis à obéir. Puis aller jusqu'au bout, puis essayer d'accomplir la parole de Dieu comme que c'est supposé dans notre vie. On devrait tous prendre exemple de Jésus. Mais le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé à cause de son humiliation. On l'a déjà entendu, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. S'il y a des gens ici qui cherchent à être élevés, commencez par essayer l'obéissance et l'humiliation. Là, Dieu va vous bénir à la fin, puis il va vous élever. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est là que Dieu, c'était dans son plan que Jésus passe par là, ça faisait partie du cheminement qu'il devait faire, mais il avait déjà prévu d'élever son fils, il avait prophétisé dans l'Ancien. Dieu, il accomplit ce qu'il a annoncé. Fait qu'il a élevé, il a souverainement élevé Jésus, il a donné le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça que Dieu veut faire. Normalement, la gloire revient à Dieu, parce qu'il est le souverain, puis Dieu a décidé de révéler son Fils, il est sorti de Dieu, il est venu en forme humaine, puis après ça, il l'a élevé, puis il est assis à côté de lui, puis là, il dit, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue rende gloire à Dieu par Jésus. Que toute langue rende gloire au Seigneur qui amène une gloire à son Père. Dieu a voulu élever Jésus pour qu'il soit glorifié, puis ça glorifie son Père. Si tu crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu, puis tu crois qu'il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, mais c'est le message central de la Bible, ça. Crois ça, puis marche à sa suite. Suis-le, obéis, embarque dans son chemin, puis tu vas être sauvé. Tu vas aller rejoindre le Seigneur, puis il y a des choses spéciales pour nous, le rendu l'autre bord. Mais il veut qu'on marche par la foi. Tout ça, c'était des révélations là, de cachées, comme dans l'Ancien Testament. Quelques prophètes en avaient donné des paroles. Quand c'est arrivé, Anne, la prophétesse, a parlé pour Jésus. Siméon a parlé pour Jésus. Les anges ont parlé pour Jésus quand il était là. Puis après ça, Jésus a vécu sa vie, il est mort. Oui, il était un peu populaire, mais c'est pas tout le monde qui savait vraiment ce qui se passait. Puis là, la parole a commencé à se répandre. Que Jésus, ce fils-là, c'est le prince de la vie. Puis c'est lui que Dieu a emmené dans les cieux pour le couronner, pour être celui qui était annoncé d'avance dans l'Ancien Testament. Pendant sa vie terrestre à Jésus, il a paru comme un simple homme. Mais après sa résurrection, la toute-puissance lui a été remise. Après sa résurrection, dans Matthieu 28, le verset 18, Jésus était ressuscité, puis là, il parlait à ses disciples, puis il leur a dit, Jésus s'est approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » La toute-puissance, le seul qui avait ça, c'était Dieu le Père. Puis Jésus, après sa résurrection, il a dit à ses disciples, « Tout pouvoir, la toute-puissance, a lui été remis. » En fin de compte, elle lui a été remis comme qu'il l'avait auparavant, parce qu'il a accepté pendant un peu de temps d'en être séparé. Il est paru comme un simple homme, rempli du Saint-Esprit, mais il n'avait pas la toute-puissance. Il n'y avait pas l'omniscience non plus, ça ne va pas tout. Puis il n'y avait pas l'omniprésence en même temps non plus, parce qu'il n'était pas partout en même temps, il était à un seul endroit à la fois. Les attributs de Dieu, il ne les avait pas complètement comme qu'il les a eus par la suite, parce qu'après, quand il était ressuscité, il a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans ce verset-là, il dit, « Je suis avec vous. » Ça veut dire qu'il est omniprésent. Il peut être avec moi chez nous, puis avec vous chez vous. Puis en plus, il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire qu'il parle qu'il est rendu éternel, qu'il vit dans une vie sans fin. Il a les attributs de Dieu en lui. Jésus est la vie éternelle. Oui, il a accepté pour un temps d'être séparé de tout. Il a goûté la mort, la séparation même spirituelle, la séparation de son Père, la mort spirituelle, il l'a subi. Pendant un bout de temps, il fallait qu'il subisse ça parce que les péchés, il fallait qu'il paye la séparation que nous, on a pour pouvoir nous donner la réintégration à une communion avec lui. Fait que tout pouvoir lui a été remis, puis quand on parle du mot pouvoir, mais c'est l'autorité supérieure, la puissance, le gouvernement. Il est le maître de toutes les juridictions, puis c'est lui qui exerce tout le contrôle sur tout. Il est le maître. Il est comme Dieu, ce qu'il avait, Dieu le Père. Il a obtenu toute l'autorité et le pouvoir que son Père avait. Fait que quand on vous entendez quelqu'un parler du petit Jésus, là, c'est pas ça. Ça existe pas. Oui. Eux autres, ils ont entendu parler du petit Jésus, puis ils le voient dans la crèche, mais il est resté là pas longtemps. Parce qu'il est mort à 33 ans. Fait que pas plus que 33 ans qu'il est resté d'un état de petit Jésus, qui était à Jésus bien ordinaire. Un petit Jésus. Oui. Mais là, après sa mort, par exemple, il est le grand Yeshua qui a le nom au-dessus de tout nom, puis que tout le monde fléchit le genou devant lui, puis tout le monde confesse des gloires à Dieu dans son nom. C'est quelque chose. Dieu a établi son Fils après sa résurrection, comme chef suprême de la création. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 20 à 21. Dieu a déployé en Christ sa puissance, là, en le ressuscitant d'entre les morts, puis en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Jésus a été élevé comme étant le premier de tout ce que, de ceux qui ont existé. Parce qu'on sait que dans le monde invisible, il y a des anges très puissants. Juste un ange dans l'Ancien Testament avait détruit d'une soirée 185 000 hommes. Un ange. Ça, c'était pas le plus fort. Il y en a un qui va saisir Satan, puis il va l'enchaîner, puis il va l'envoyer dans le puits de l'abîme pendant 1000 ans. Puis Michel et ses anges, ils ont combattu contre le dragon puis ses démons, puis ils ont tous été précipités sur la terre lors de la résurrection de Jésus. Il n'a plus le droit de siéger dans le royaume céleste. Il a été précipité sur la terre, ça fait 2000 ans qu'il y a juste la terre comme demeure. Puis qu'il essaye de faire son ravage pour détruire tout ce que Dieu a créé. Ça fait qu'il y a des anges puissants, puis Dieu, il a mis Jésus plus puissant, plus d'autorité. Il a l'autorité puis le pouvoir sur tous les anges ou les hommes. Il n'y a rien de plus grand que le nom de Yeshua. Quand on dit dans la prière du Notre Père, « Père, que ton nom soit sanctifié. » Ça, là, si on est en train de prier pour demander à Dieu de sanctifier son nom. Comment est-ce qu'il y en a d'hommes qui prennent le nom de Jésus en sacrant, en blasphémant, en le prenant en vain, qui est un des 10 commandements de Dieu, qui dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Quand ils prennent le nom de Yeshua ou Jésus ou Seigneur ou Dieu, puis là, il y a des blasphèmes en plus en le maudissant, parce qu'ils dèment, ils maudissent en disant « dème » avec ça, là. C'est grave, ils se rendent pas compte. Ils sont en train d'insulter le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est là qu'on voit que dans Jude, il dit qu'il y a des gens qui sont semblables à des brutes qui injurient les gloires. Même Michel, qui est le chef des anges, n'a pas osé devant Satan de dire un jugement injurieux parce que Satan a déjà été une gloire. Il est comme David qui a posé tuer Saül, parce que Saül était un élu de Dieu, lui aussi, même s'il était déchu. Il n'a pas voulu y toucher, c'était loin de l'Éternel pour lui. Il respectait les gloires. Puis aujourd'hui, les humains ne respectent pas les gloires. Puis nous, en tant que peuple de Dieu, ça fait partie du plan de Dieu qu'on enseigne de sanctifier le nom de l'Éternel qui est notre Seigneur Yeshua et Dieu le Père et le Saint-Esprit. Puis ça, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Il y a l'autorité au-dessus de toute autorité. Il dit, il est au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Puis non seulement dans le siècle présent, mais dans les siècles à venir. Fait que même s'il y a des gens comme Hitler qui a essayé d'imposer son nom partout, là, en essayant de faire une guerre mondiale, mais il est encore petit comparé à Jésus. Il n'y a rien, il est rien. Il est descendu dans le séjour des morts, puis il souffre déjà en attendant sa sentence. C'est de même. Les gens qui se rebellent contre l'autorité de Dieu, ou ceux qui ignorent Dieu, qui ne veulent pas flécher le genou, ils vont être obligés pareil de le faire un jour. Yeshua est le chef de toute domination et de toute autorité. Dans Colossiens 2:10, ça nous dit, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Ça veut dire que Jésus, en étant le chef des dominations, il est le chef des royaumes terrestres, puis il est le chef des royaumes célestes. Même des royaumes des ténèbres ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent si Dieu veut pas. Jésus est le chef de toute domination, toute autorité. Il n'y a rien qui peut résister à sa volonté. Il a juste à dire de quoi, puis le diable, il plie. Il n'a pas le choix. Il est une créature, lui, tout. Il n'est pas le créateur. C'est une créature très limitée, plus forte que nous, peut-être, en tant qu'humain. Mais nous, vous allez le voir plus loin dans l'étude, qu'on a l'autorité de Jésus, puis qu'on a le pouvoir, l'autorité, le pouvoir contre les puissances des ténèbres. Puis, mais il faut le savoir d'où ce que ça vient. C'est à cause du nom de Yeshua. On est en lui. Mais il y a quand même, on respecte les gloires, on n'humilie pas les démons non plus, puis on a l'autorité. Mais autant que Jésus a l'autorité sur tout. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'autorité de Jésus. Puis de voir qu'il y a plein de versets qui parlent de cela pour nous dire que c'est vraiment une base doctrinale extrêmement solide. Il est le chef de toute domination puis de toute autorité. Fait que quand, si, pour ça qu'on s'en remet à Dieu puis qu'on dit « si Dieu le veut », c'est lui qui décide. On peut faire des projets, on peut avoir des beaux plans, mais c'est Dieu qui décide. Il est même appelé, dans un autre passage, Jésus est appelé le prince de la vie. Quand tu es un prince, ça veut dire que tu es le fils du roi. Mais Jésus est le prince de la vie. On voit ça dans Actes 3:15, où les apôtres ont dit à des gens, « Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Jésus, il était le prince à cause qu'il était le fils, puis qu'à cause qu'il était vraiment élevé dans la position de toute autorité. Il est le prince qui règne comme le roi. Mais Dieu le Père, lui, il débâclera pas. Là. Aujourd'hui, dans les royautés, le roi débâcle, c'est le prince qui embâcle. Mais Dieu peut pas débarquer, puis on l'a dit dans la semaine passée, son règne n'aura pas de fin à Dieu. Mais c'est Jésus, son fils, qui règne, qui règne avec son Père, dans une pleine pensée soumise à la pensée de son Père. Ils sont complètement connectés dans la même pensée. Il n'y a aucun once de différence. Ils ne s'ostinent pas quand ils se parlent. Ils sont d'accord ensemble. Puis ils parlent de « faisons », c'est les deux sont d'accord quand ils décident de faire quelque chose. Voyez-vous? Dieu s'est servi de son Fils pour être un porte-parole. Ensuite, il l'a établi héritier de toute la création, étant aussi lui-même le Créateur. Faut jamais oublier ça. Jésus était là lors de la création, puis ça dit que c'est Jésus qui a tout créé. Dans Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, ça dit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Yeshua, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. » On voit dans ce passage-là que Dieu s'est servi de son Fils pour nous parler, puis en plus, c'est lui qui avait créé tout ça, tout ce qui existe, toute cette création, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Jésus qui l'a créé. Puis en plus, il a dit qu'il a fait de son Fils l'héritier de tout ça. Fait qu'on a vu la semaine passée que Dieu le Père était le propriétaire de tout parce qu'il en était le créateur. Puis Jésus était le créateur aussi. Fait que tout lui revenait, puis ça a été donné comme étant l'héritier qui devait tout hériter. Tout est à lui. Fait que Jésus, il a tout pouvoir, puis tout lui appartient. C'est super. Jésus a été l'exemple parfait de son Père. Il a payé la dette de nos péchés, puis il s'est assis dans les lieux célestes, dans les cieux. Il est assis dans le ciel. C'est pour ça que dans d'autres versets, dans Hébreux, ça dit, il a rentré dans le temple, dans le lieu saint, pour aller porter son sang qui servait pour nous sauver. Puis après ça, il est allé s'asseoir sur le trône, puis c'est lui qui règne. Il dit, comme moi, j'ai vaincu, puis je me suis assis sur le trône de mon Père. Puis il y a des promesses aussi pour nous là-dedans. Mais le but d'aujourd'hui, c'est d'élever Jésus à sa position supérieure surtout. Ça dit dans Hébreux, chapitre 1, verset 3, on va suivre quelques versets dans Hébreux, là, ensemble. Ça dit que Jésus étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toute chose par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, puis il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On voit que Jésus, il est venu pour un temps, il a parlé, puis ça, dans le verset 1-2, ça dit qu'il a créé tout ça, puis là, ça dit qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Si tout ça continue là à exister, puis tout continue à évoluer dans ce qui est la planète, puis l'histoire de la planète, puis tout ce qui se passe dans l'univers, là, dans sa création, puis même dans le monde invisible, c'est la parole de Jésus qui soutient toute chose. Autant que c'est lui qui a tout créé, puis c'est Jésus qui prononce les paroles pour que les choses continuent à rester en place, puis à se maintenir. On voit là-dedans qui travaille fort, bien sûr, là, parce que c'est immense tout ça, là. Mais pour lui, il peut penser à une infinité de pensées, puis à une infinité d'énergie et de puissance qui s'exerce pour maintenir tout ça en existence. Même le diable tient sa subsistance. Le fait qu'il continue à vivre, ça vient de Jésus. C'est Jésus qui maintient toute chose en subsistance. Le diable est maintenu en vie par Jésus qui le tient en vie. Si Jésus arrêtait de penser à lui, pif, il disparaît. Il maintient en vie. Dieu s'en sert même à son insu. Il pense qu'il invente bien des affaires. Dieu avait tout vu d'avance qu'est-ce qu'il était pour faire. Puis il donne des libertés, puis il donne des interdictions. Puis lui, il gère. Tant qu'il gère là-dedans, il est pas enfermé dans le puits de l'abîme. Il y en a des démons enfermés déjà dans le puits de l'abîme qui sont gardés captifs, enchaînés dans les ténèbres pour l'éternité. Eux autres sont dans les ténèbres, mais ils ont encore du lousse, là, temporairement, jusqu'à temps que Jésus en ait fini dans son histoire. Mais il contrôle toute chose. Fait que Jésus, c'est sûr que c'est énervant, tout ce qu'il a vécu là, quand il est mort sur la croix, mais il savait tout ça d'avance. Il savait qu'il fallait qu'il passe par là, puis il a accepté son chemin dans l'obéissance, comme nous, on est appelés à vivre dans l'obéissance en acceptant notre chemin. Après ça, ça nous dit que quand il est allé s'asseoir dans les lieux très hauts, on va lire après ça l'autre verset au verset 4, il est devenu dans un état supérieur aux anges, puis il a été appelé le Fils. Alors regardez bien ça dans Hébreux, l'autre verset après, ça dit, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Mais Dieu l'a fait à Jésus. Il l'a appelé. Quand la voix c'est du ciel a parlé à ceux qui, aux disciples qui étaient à sa terre, il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il l'a dit à tout le monde qui était là. Dieu, il n'a pas dit ça aux anges. Il a dit ça à son fils. Il chérissait à son fils. C'était son fils bien-aimé. Il a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, c'est une parole dans l'Ancien. Puis il dit encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. On voit là-dedans de la relation qu'il vivait père-fils quand il était sur la terre. Tu le vois quand Jésus s'exprime à son père. Puis son père, à plus qu'une reprise, il a parlé aux hommes. Parce que quand il a dit ça, voici mon fils bien-aimé, il l'a aussi dit qu'à son baptême. Mais Dieu est intervenu de différentes façons pour appuyer le témoignage de ce qui se passait sur la terre. Parce que Jésus était l'élu, le fils, l'héritier, celui que Dieu parlait à travers lui, celui qui a créé toute chose avant, puis celui qui est retourné, puis il soutient encore toute chose aujourd'hui. Tous les anges ont reçu l'ordre de Dieu d'adorer Jésus. Hébreux 1, le verset 6 et 7. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents, de ses serviteurs, une flamme de feu. Mais les anges sont puissants, c'est des serviteurs, c'est des flammes de feu, mais il a dit à ses anges d'adorer son fils. Fait que tous les anges, comme qu'on l'a vu tantôt, tous les humains, tous ceux qui sont dans le séjour des morts ou dans le sein d'Abraham, là, tombent sur le genou au nom de Dieu pour confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça accomplit les paroles qui sont écrites par l'apôtre Paul, qui dit que Jésus a reçu le nom de tout nom, puis qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Tous les anges puissants dans le ciel fléchissent le genou devant Jésus. Qui est réservé, l'adoration qui était réservée seulement qu'à Dieu seul. Parce que Dieu veut pas qu'on se prosterne devant aucun autre Dieu que lui. Il n'en existe pas d'autre Dieu, mais son Fils est en lui, puis il a été mis là comme être à adorer, à se fléchir de genoux devant lui. J'achève. Dieu le Père a appelé son Fils Dieu, puis a reçu une bénédiction supérieure à tous les autres fils. Si on voit ça dans l'autre verset après, dans Hébreux chapitre 1, verset 8 et 9. Dieu le Père a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes égaux. » Voyez-vous, dans ce passage-là, Dieu, le Père, appelle son Fils Dieu, puis il dit que son règne va être éternel. Un règne qui ne passera point, qu'on a vu dans d'autres versets. Puis c'est un règne, un cep d'équité. Voyez-vous, Jésus, lui, c'est la marche sur la terre. Le cep, c'est le bâton que tu peux t'appuyer, là. Lui, c'est la justice. Il marchait dans la droiture, dans l'honnêteté, dans aucune désobéissance dans sa vie, puis il appelle ses serviteurs à marcher dans la même justice que lui. Je finis avec un dernier verset. Toute la création disparaîtra, mais les années de son règne à Yeshua dureront à jamais. Dans Hébreux chapitre 1, verset 12, ça dit qu'il va rouler le ciel et la terre comme un manteau, puis ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Fait que Jésus est appelé que même après la destruction de cette planète, Jésus va continuer à régner pour l'éternité. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie de te révéler à chacun de nous pour qu'on voit ta grandeur, la grandeur de ta puissance, de ton autorité, de tout ce que tu peux faire, Seigneur, parce que le Père t'a élevé dans la même position que lui. Merci, Seigneur, de te révéler à chacun de nous. Merci, Seigneur, de nous faire comprendre qui tu es et qu'est-ce que tu vas faire aussi dans la suite. Seigneur, on veut te rendre la gloire et que te reviens dès maintenant et pour toujours, Seigneur. On nous fléchissons le genou devant toi puis nous acceptons ta seigneurie. Sois glorifié par nos vies. Dans le nom de ton Fils Yeshua, Père, que je te prie et que je te loue. Dans le nom de Jésus. Amen.